travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Qu'on l'appelle génie ou qu'on ne l'appelle pas génie, c'est le camarade Lénine, représentant un mouvement qui a créé une espèce de monde nouveau pour le peuple russe.
Mais je crois bien que les historiens reconnaîtront qu'il a ouvert une ère nouvelle à l'humanité.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi les émissions consacrées ce week-end par France Culture à la Révolution russe d'octobre 1917, la nôtre est vouée, selon sa vocation propre, à s'interroger sur de possibles échos avec notre présent. La longue parenthèse du bolchevisme étant à présent refermée, c'est ailleurs qu'à l'intérieur d'elle-même, on peut se mettre en quête d'éventuelles concordances. Je ne me hasarderai pas sur le terrain mouvant de la permanence supposée d'une âme russe, un thème qui fut cher à tant d'observateurs et d'essayistes depuis le 19e siècle jusqu'aux années 30, mais qui se prête à beaucoup d'élucubrations hasardeuses et fantasmatiques. Notre angle sera différent. La grande diversité des regards qu'aujourd'hui ceux qu'on appelle les leaders d'opinion jettent sur la Russie de Poutine, cette diversité incite à considérer, pour comparaison, la manière dont en 1917 et au cours des années suivantes, les analystes et les observateurs français, sur place ou depuis Paris, ont compris, commenté, ressenti les événements de Russie. J'ai été d'autant plus porté à choisir cet éclairage que je pouvais faire fond sur la compétence de mon invité, Sophie Queuré, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris 7, Denis Diderot. On lui doit notamment, parmi d'autres travaux précieux et l'édition de textes importants, un ouvrage intitulé « La grande lueur à l'Est » et sous-titré « Les Français et l'Union soviétique de 1917 à 1939 ». Nous y voilà tout directement. Et pour commencer, un document précieux, Juliette Gréco chante « Octobre » à Moscou en 1967. Il n'y a pas d'autres enregistrements.
Et la chanson d'octobre, qu'est-ce que c'est que cette chanson?
C'est l'histoire du peuple qui chante et qui est libre et libéré.
Песня «Октябрь» — это история народа, который освобожден и свободен, и поэтому он поет.
Quand revient le mois d'octobre, cette chanson dans l'automne nous rappelle qu'autrefois, avec le son de sa voix, 1917, elle a fait à la seconde naître le printemps du monde, quand enfin ce mois d'octobre vint. De poing dans l'automne, changer le destin des hommes, jusqu'à faire de la terre la banlieue de l'univers, avec un refrain qui sonnera bien. Un jour cette voix profonde du peuple sortit de l'ombre, et cette chanson d'octobre est née.
Quand
Sophie Curie, bonjour.
Bonjour.
A-t-on besoin que vous nous expliquiez pourquoi cette chanson, Juliette Gréco n'a pas souhaité l'interpréter à nouveau ? D'un coup de poing dans l'automne, changer le destin des hommes jusqu'à faire de la Terre la banlieue de l'univers, avec un refrain qui sonnera bien un jour, cette voix profonde du peuple est sortie de l'ombre et cette chanson d'octobre 1967, un demi-siècle, que de changements.
Et c'est vrai que... On comprend que Juliette Gréco n'ait pas voulu la chanter. On comprend aussi que finalement cette chanson qui fait partie du système commémoratif de mise en place, je dirais pas seulement par le Parti communiste, mais autour du Parti communiste pour le 50e anniversaire, c'est le mythe d'octobre. Le mythe d'octobre qui ne parle plus vraiment à Juliette Gréco très rapidement et qui ne parle plus au fond peut-être à personne. Donc on serait là plutôt vraiment dans la discordance des temps. C'est-à-dire que ce qui joue en 1967, c'est à la fois ce mystère, cette séduction, mais en fond... on entend aussi au fond les balalaïkas, donc ça n'est pas seulement l'octobre bolchévique ou l'octobre soviétique, c'est aussi l'amitié entre la France et la Russie qui, elle, n'a pas disparu.
Donc vous nous dites qu'il y a une diversité des temporalités, puisqu'il y a l'immédiateté de la fidélité et il y a la longue durée de l'idée qu'on peut se faire de la musique russe, c'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre de clichés probablement.
Exactement, on retrouve un certain nombre de clichés ou disons de permanences, d'imaginaires de la Russie qui ont été aussi très importants pour comprendre l'impact et l'enracinement de cette séduction de la révolution d'octobre qui s'est adoucie, qui s'est recomposée bien sûr entre 1917 et 1967, puisqu'il y a eu le stalinisme qui a été très dur. Et là, on est dans une période de déstalinisation, de retour à Lénine. Ça explique aussi ce rêve de la révolution d'octobre 17 qui revient en force en 1967 et l'année suivante, 1968, ô combien, et qui ensuite va de nouveau, je dirais, se dissoudre et disparaître jusqu'à devenir quasiment inconnu et inaccessible aux jeunes générations actuellement.
Lénine et Staline, il est assez curieux rétrospectivement de voir comment leur image a successivement dépassé celle de l'autre et réciproquement. Staline efface peu à peu Lénine à mesure qu'il prend le pouvoir et pendant la Seconde Guerre mondiale et on voit ensuite effectivement Lénine ressurgir. Il est d'ailleurs toujours là puisqu'il est toujours embaumé.
Staline efface Lénine et de façon tout à fait volontaire et organisée. C'est vrai que Lénine reste la grande référence iconique de la révolution d'octobre et il n'était pas question de l'oublier ou de ne pas le citer.
Oui, naturellement, s'entremêle l'évolution de la mémoire en France de nos propres révolutions et de l'image qu'on a eue de 1917. Et ce qui nous est advenu en provenance de Moscou, de Leningrad, ex-Saint-Pétersbourg, et l'ensemble du continent russe.
Oui, il y a eu vraiment une construction à la fois historique et mémorielle qui est intéressante. Évidemment par son influence sur la France et sur le monde entier. Donc là, la chanson chantée par Juliette Gréco est quelque part juste, mais qui aussi est intéressante parce que elle a été construite par strates et elle a été construite aussi volontairement depuis Moscou par ces bolcheviks, ces marxistes-léninistes qui s'inscrivaient dans le mouvement de l'histoire et qui étaient certains d'avoir raison et que le socialisme s'imposerait un jour au monde entier. Donc il y a vraiment ce projet de diffuser une image, de diffuser une idée qui va se poursuivre pendant tout le siècle soviétique avec des développements différents, mais qui commence dès la prise du pouvoir octobre 1917. Encore faut-il rappeler que octobre 1917, ça n'est pas la révolution d'octobre, c'est la deuxième révolution de 1917.
Mais puisque nous braquons l'attention, Sophie Curie, ce matin sur les relations entre la France et la Russie, je veux dire le regard que les Français portent sur la Russie, il faut prendre un peu de recul. Rien ne naît jamais d'une table rase et parler du 19e siècle. Il y a un grand succès de librairie qui est le livre du Marquis de Custine qui avait été republié récemment avec une préface de Pierre Nora, mon invité la semaine prochaine. C'était un livre qui s'intitulait « La Russie en 1839 ». Il est paru en 1843. Écoutez cet extrait que j'emprunte à l'émission « L'échappée belle » de Pascal Lismonde, le 13 décembre 1991. C'est une lecture de Vincent Lubkoff.
Avant ce voyage,
Mes idées sur le despotisme m'avaient été suggérées par l'étude que j'avais faite des sociétés autrichiennes et prussiennes. Je ne songeais pas que ces États ne sont despotiques que de nom, et que les mœurs y servent de correctif aux institutions. Je ne savais pas encore ce que c'est que la rencontre d'un gouvernement absolu et d'une nation d'esclaves. C'est en Russie qu'il faut venir pour voir le résultat de cette terrible combinaison de l'esprit et de la science de l'Europe avec le génie de l'Asie. Je la trouve d'autant plus redoutable qu'elle peut durer. Parce que l'ambition et la peur, passions qui ailleurs perdent les hommes en les faisant trop parler, engendrent ici le silence. Ce silence violent produit un calme forcé, un ordre apparent plus fort et plus affreux que l'anarchie, parce que le malaise qu'il cause paraît éternel. De quel droit d'ailleurs reprocherions-nous à l'empereur de Russie son amour de l'autorité ? La révolution n'est-elle pas aussi tyrannique à Paris que le despotisme l'est à Saint-Pétersbourg ? Et toutefois, nous nous devons à nous-mêmes de faire ici une restriction pour constater la différence qu'il y a entre l'état social des deux pays. En France, la tyrannie révolutionnaire est un mal de transition. En Russie, la tyrannie du despotisme est une révolution permanente. Je crois que de toutes les parties de la Terre, la Russie est celle où les hommes ont le moins de bonheur réel. Nous ne sommes pas heureux chez nous, mais nous sentons que le bonheur dépend de nous. Chez les Russes, il est impossible. Figurez-vous les passions républicaines, car encore une fois, sous l'empereur de Russie règne l'égalité fictive, bouillonnant dans le silence du despotisme. C'est une combinaison effrayante, surtout par l'avenir qu'elle présage au monde. La Russie est une chaudière d'eau bouillante bien fermée, mais placée sur un feu qui devient toujours plus ardent. Je crains l'explosion.
Un feu toujours plus ardent, se fit curer. Custine craint l'explosion, l'avenir que la Russie promet au monde. Rétrospectivement, lucidité.
Custine a été lu à l'époque et plus encore par la suite, finalement, comme un prophète qu'il ne voulait pas être. C'était aussi un aristocrate qui détestait la Révolution française, qui cherchait des modèles ailleurs en Europe.
Il le dit bien.
Il le dit bien. Il a été déçu. Et en même temps, il a cette puissance d'analyse. Il faut voir aussi que Custine dialogue avec Tocqueville. Tocqueville qui n'a pas voyagé en Russie, lui, et ça fait quelque chose de différent, mais qui, dans la démocratie en Amérique, oppose les deux grands peuples qui vont se partager le monde.
L'Amérique l'un à l'Est et l'autre
Russie,
à l'Ouest.
Le despotisme et la liberté. Donc ce sont des débats qui agitent l'Europe depuis la première moitié du 19e siècle et qui peut-être ne sont pas tout à fait terminés sur la nature des régimes et sur aussi la manière dont les peuples vont se plier à une autocratie, à une dictature, et puis ensuite subitement y résister et la renverser par une révolution. C'est l'alternative que Custine voit pour l'Europe et qui l'inquiète entre autocratie et révolution. Et dans ce débat, on va ajouter plus tard, au fur et à mesure que l'Europe se rapproche de la Russie, et notamment la France, une troisième alternative, espérée par certains, comme Anatole Louis-Beaulieu, le libéralisme, l'européanisation, l'ouverture à la démocratie parlementaire. Et c'est cette alternative qui, pour certains, est brisée en 1917.
Alors que, au temps des romantiques, en tout cas au temps de Michelet, on pouvait lire sous sa plume que l'empire tsariste était un géant ivre et fou. Toujours cette conception, le mot d'ailleurs d'éternité est chez Custine, cette idée de permanence que les événements de surface ne viendraient jamais remettre en cause. Vu d'aujourd'hui, on peut d'ailleurs se demander si, dans le regard que les Français jettent sur la Russie de Poutine, il n'y a pas quelque chose comme un soubassement. C'est toujours cette question de l'âme des peuples, si à la mode. Il y a un livre d'André Siegfried sur l'âme des peuples des années 50 qui, je dois dire, a pris un sacré coup de vieux.
Oui, pour nous, c'est quelque chose qui évidemment dépassé, mais doit être pris pour ce qu'il est. C'est-à-dire que les contemporains du 19e siècle jusque peut-être aux années 50 et même pour certains jusqu'à aujourd'hui, croient dans des facteurs de permanence des civilisations, des cultures. C'est une lecture qui permet aussi de dépasser finalement la succession des régimes politiques et qui va être extrêmement puissante du 19e siècle au 20e siècle pour expliquer certains événements russes par la supposée âme ou slave ou âme russe qui serait liée au climat, qui serait liée à l'espace immense de la steppe.
Montesquieu un peu dégradé. Alors on voit les composantes.
Les tempéraments.
On voit les composantes du cliché, on voit un peuple jeune, encore en formation par rapport aux vieilles nations d'Europe, gaieté, intelligence vive, sensibilité artistique, hospitalité, goût de la parole publique. Ce n'est pas un regard d'ailleurs négatif, c'est un regard souvent inquiet, mais qui peut, et c'est cela qui permet la grande alliance franco-russe de la fin du 19e siècle, et qui peut se muer en sympathie ardente.
La sympathie du peuple français pour le peuple russe, effectivement, est montée en épingle au moment de l'alliance franco-russe, mais les éléments négatifs sont quand même bien présents, notamment l'idée que le peuple russe aurait un fond de cruauté, un fond de propension aussi au mensonge, à la dissimulation. Alors, tout est réversible dans ces analyses, et c'est ce qui fait aussi leur force. Par exemple, l'idée que le peuple russe est résistant à la douleur et apathique va obéir. Alors, au moment de l'alliance franco-russe, c'est très bien parce qu'on se dit, on a un réservoir d'hommes immense, on a le fameux rouleau compresseur russe qui va être précisément mobilisé en 1914 et qui va décevoir fortement les Français en 1917.
Mais je suis passé pour venir à Radio France sur le pont Alexandre III. C'est une manière de célébrer l'alliance franco-russe qui a tant touché le peuple français à la fin du 19e siècle et qui explique, comme vous le dites, que le rouleau compresseur russe est considéré avec beaucoup d'attention en 1914 et beaucoup d'espérance. Il y a aussi d'ailleurs beaucoup de clichés parmi la longue liste des stéréotypes ou des rumeurs ou des illusions. On relève par exemple, je ne donne qu'un exemple, dans un journal français, l'affirmation que les Cosaques étaient si puissants qu'ils pouvaient, avec leurs baïonnettes, enfiler les Allemands, une série d'Allemands sur une seule baïonnette prolongée, et les jeter ensuite dans l'air avec une maestria magnifique. On a cru ça, parfois.
C'est vrai que la Russie, si on se place en 1914 ou en 1917, encore qu'en 1917, la censure règne, donc c'est un peu différent. Mais en 1914, la Russie est quand même mieux connue. Elle est mieux connue par sa littérature, elle est mieux connue par de nombreux voyageurs, par les échanges des communautés qui s'installent pour les Français en Russie, pour les Russes en France. Donc la Russie est mieux connue et en même temps, il reste ce fond d'imaginaire, de représentation, de cliché qui est très puissant. Et ce débat de fond qu'on voit ressurgir dans les moments de crise et dans les moments d'inquiétude aussi sur ce que va faire la Russie, comme peut-être actuellement, qui est-ce que la Russie se tourne vers l'Europe ou vers l'Asie. Et ça, c'est un débat qui agite beaucoup les Russes, entre les slavophiles, les occidentalistes, et c'est un débat qui va aussi beaucoup agiter les Français et qui va en quelque sorte disparaître, mais pas vraiment disparaître, avec la victoire du bolchevisme en octobre 1917.
Regard aussi vers la première révolution, c'est-à-dire celle de 1905, qui a elle-même contribué à nourrir en France l'idée qu'après tout, Les Russes pourraient se diriger doucement vers un régime social-démocrate. C'est aussi le temps où se vendent beaucoup en France les empereurs russes. Le réveil sera dur après 1917 dans toute une partie de la bourgeoisie française qui avait placé, en se croyant sûre, ses économies de ce côté-là.
La révolution de 1905 éveille en effet bien des espoirs dans une gauche qui va des socialistes aux libéraux et qui espère aussi la fin de ce qu'on commence à appeler la prison des peuples, donc l'émancipation de l'Empire, puisque la France c'est l'État-nation qui se veut aussi un exemple en ce sens, même si c'est aussi une puissance coloniale de son côté. Donc espoir d'un côté et en même temps inquiétude, notamment du point de vue des élites dont on parlait tout à l'heure, parce que en 1905, aussi, la Russie est vaincue par le Japon. Cette défaite va beaucoup inquiéter les états-majors et en quelque sorte anticipe la grande déception de 1917.
La grande défaite de Tsushima, défaite maritime.
Oui, entre autres.
De fait. Mais on s'interroge du coup en France à ce moment-là sur la possibilité qu'il y ait une opposition, puisque naît la Douma, une assemblée, qu'il y ait une opposition contre le régime. Dans les jours actuels où on voit les opposants à Poutine ayant tant de difficultés à faire entendre leur voix, on peut se demander s'il n'y a pas des échos que l'on peut évoquer sans excès d'artifice.
Il y a des échos, et ce n'est pas forcément un hasard si l'archive que vous avez présentée tout à l'heure a été lue en 1991. C'est parce que la chute de l'Union soviétique, que fait le nouveau pouvoir russe ? Il rétablit un régime parlementaire et il reprend ce terme de Douma. C'est le nom de la chambre russe.
Eltsine choisit de le reprendre.
Tout à fait. Donc la parenthèse semble refermée. On semble reprendre ce mouvement démocratique avec la perestroïka et puis avec la chute de l'URSS. Et c'est vrai qu'il y a eu de ce côté-là aussi beaucoup de tensions, beaucoup de déceptions et en même temps des progrès et un chemin qui finalement aussi a été repris du point de vue de l'expression démocratique en Russie, même si elle reste souvent très problématique.
La première révolution, enfin celle de février 1917, suscite en France, du côté des militaires, mais de l'opinion en général, des réactions qui ne sont pas forcément hostiles. On a au contraire le sentiment que peut-être le régime qui est incarné dans la personnalité de l'avocat Kerensky, que ce régime va être capable de mener la guerre de façon plus efficace, en un temps où le sentiment monte que peut-être il risque d'y avoir une désorganisation de l'allié russe pour la grande inquiétude, bien sûr, de la Grande-Bretagne et de la France.
La nouvelle de la révolution qui éclate en février 1917 est en effet reçue plutôt positivement parce que d'abord elle semble rapprocher la Russie de la République française. Ça n'est plus une autocratie alliée à toutes les grandes familles de l'Europe et notamment à la famille qui règne en Allemagne, à l'autocratie allemande. Donc on établit un gouvernement provisoire, mais qui semble aller vers la République. Donc ça, c'est tout à fait positif. Et puis surtout...
Plutôt d'ailleurs 1789 que 1794, ce qui convient bien à beaucoup de Français.
C'est 1789, c'est aussi quelque part 1792 en même temps, c'est-à-dire la nation en armes qui va se souder pour combattre tous ensemble, le peuple qui va être mobilisé pour combattre de nouveau, alors que... la Russie a connu beaucoup de défaites entre 1914 et 1916.
C'est peut-être d'ailleurs le moment de signaler que Alphonse Allard, qui est professeur à la Sorbonne, qui occupe la chaire d'histoire de la Révolution, publie, on pratiquait déjà la concordance des temps à l'époque, je salue sa grande mémoire, un opuscule qui s'appelle « La Révolution française et la Révolution russe, lettres aux citoyens de la libre Russie », où il envoie à la Russie un salut, la fidélité de la France républicaine, et la supplie de suivre le modèle français de 1793, mais en même temps il appelle les Russes à la vigilance pour ne pas déshonorer, comme l'avait fait la terreur, la révolution d'amour, entre guillemets, par la violence.
Alphonse Allard fait partie de ces Français qui seront déçus par la, d'une part, par la révolution russe de février, mais surtout par la révolution d'octobre dans sa version bolchevique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie, malgré tout, de l'opinion française, y compris chez les soldats qui sont au courant, qui parlent dans les hôpitaux de l'arrière, etc., qui espèrent au contraire que la révolution russe va arrêter la guerre et qu'on va reprendre les relations internationales, les discussions et que enfin la grande boucherie, comme on le dira plus tôt par la suite, va s'arrêter. Donc il y a des sentiments contrastés.
Oui, d'autant plus qu'on est au temps des mutineries du printemps 1917, qui n'embrassent pas toute l'armée française, mais qui témoignent de façon très forte d'une extrême lassitude devant la guerre et effectivement du rêve qu'elle puisse s'arrêter.
Les mutineries, on le sait maintenant, ne sont pas lié de façon causale à la révolution russe, mais
certes,
c'est vrai que c'est la même atmosphère. Et puis il y aura aussi, on en reparle aussi actuellement, la mutinerie des soldats russes qui avaient été envoyés sur le front français et qui se mutineront au camp de la Courtine dans la Creuse. Donc ça va commencer à saper la confiance dans l'allié russe.
Alors transportons-nous à Saint-Pétersbourg pour rejoindre les Français qui n'ont pas depuis l'Hexagone, mais sur place, considèrent ce qui se passe. Et je voudrais vous faire entendre un point de vue spécifique. Commençons par les diplomates. Il s'agit de la comtesse Louise de Robien, qui lit le texte que vous allez voir, le récit suivant, le 24 octobre 1966. Louise de Robien était le numéro 2 de l'ambassade de France en Russie. On a publié récemment son journal, qui est fort intéressant. C'est un milieu typé, comme vous allez voir.
On tirait des coups de feu dans la rue Litchéni et on incendia le palais de justice, plusieurs ministères, l'Okhrana et les commissariats de police. On ouvrit les prisons d'où les assassins et les voleurs s'échappèrent. Le palais d'hiver fut envahi et la forteresse Pierre-et-Paul assiégée. Quai français devant l'ambassade, l'on se battait et nous voyions des fuyards qui couraient dans tous les sens, ainsi que des soldats envoyés pour les combattre, mais qui désertaient à qui mieux. Le lendemain, les troupes de la garde, les cosaques du convoi, les tirailleurs de la famille impériale aux blouses de soie marrantes autrefois, tournèrent aussi du côté des insurgés. Et leur premier soin fut de s'emparer des autos particulières. Ils s'allongeaient sur les garde-boues comme des grands lévriers, leurs fusils pointant devant eux. On voyait aussi passer continuellement des camions remplis de soldats aux insignes rouges. Dans les rues, les badauds regardaient ce spectacle avec un mélange de frayeur et de curiosité. Dans la Morovaya, près de mon appartement, j'ai vu des soldats pillant le logis d'un policier. Ils jetaient par la fenêtre des quantités de papiers, les archives, qui tombaient sur la neige comme des grands oiseaux blessés. Tout à coup, au milieu de cette blancheur, s'écrasa une énorme masse noire, faisant un bruit harmonieux d'arpèges de harpe. C'était un gros piano à queue. Ce même jour, des soldats essayèrent de désarmer les officiers. Le vieux général Stackelberg, qui refusait de rendre son épée en disant « jamais, jamais », fut fusillé par eux et jeté dans la Neva. Cependant, la vie continuait et le soir, il y avait un grand dîner à l'ambassade.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Lucide, ce regard du milieu diplomatique, Sophie Queret, ou fantasmatique, rétrospectivement reconstruit, pensez-vous?
C'est un regard qui date de 1966 et d'ailleurs, il faut saluer Radio France qui avait fait une très belle campagne d'archives à la fois d'émigrés russes et de témoins français en 1966-67.
Je me joins à vos félicitations.
Et qui sont très précieux pour les historiens. Alors Madame de Robien, c'est vraiment un témoignage intéressant parce que d'un côté, elle nous replonge dans l'événement et nous fait comprendre aussi que cette année 17 fut un continuum de violences et d'événements politiques qui se sont succédés à un rythme extrêmement rapide. Là, on est en février 1917, c'est la révolution de février. On y retrouve la rapidité de l'événement. On y retrouve aussi quand même un certain nombre de stéréotypes qui ont pu s'ajouter par la suite, mais qui ont pu être tout à fait vécus. Hein, les pillages qui étaient réels, mais aussi, par exemple, l'inversion sociale.
Le meurtre du général.
Le meurtre du général. C'est l'événement. Et puis, ce qui peut nous alerter aussi, c'est que c'est quand même l'événement vu depuis la capitale et vu depuis un tout petit point de vue, la capitale, celui des élites.
À Moscou, l'ambiance est différente ?
À Moscou, l'ambiance est différente et la révolution va se passer un petit peu différemment. Et surtout, ce qu'on sait maintenant avec les travaux de beaucoup d'historiens, notamment russes, c'est que l'immense province russe, qui est composée à plus de 80% de paysans, vit la révolution tout à fait différemment.
Comment ?
Et ça peut nous alerter peut-être aussi sur, quand on parle de la Russie actuellement, on la voit en termes de relations internationales, puisque c'était une puissance et c'est redevenu une puissance très rapidement dans les années 20 et ça l'est de nouveau. Mais c'est une puissance qu'on voit aussi au niveau de beaucoup des capitales, des élites urbaines. Et il faut bien prendre garde à regarder aussi ce qui se passe dans l'immense pays, même si on le sait souvent moins et on le sait
qu'est-ce
souvent avec retard.
Qu'est-ce qui se passe dans le pays de différent par rapport à Moscou, Saint-Pétersbourg ou d'autres grandes villes?
Ce qui se passe en Russie en 1917, qui se passe partout, c'est le refus de la guerre, puisque le soldat est un soldat paysan. Et un personnage qui va jouer un rôle très important dans la Révolution, c'est non seulement le soldat, mais la femme du soldat, la soldatka, qui est justement dans les villes ou dans les villages. Donc ça, c'est un point commun. En revanche, ce qui se passe de façon différente, c'est la relation à l'effondrement progressif du pouvoir, et notamment du pouvoir social, économique des élites, et ces paysans qui veulent la terre, et c'est ce que comprendra Lénine beaucoup mieux que, par exemple, Kerensky.
Il y a donc le regard des diplomates, il y a... À mesure que la révolution se développe, que la révolution d'octobre succède à la révolution de février, il y a une grande difficulté à s'informer, car la circulation des nouvelles est forcément ardue. Et du même coup, la place est plus libre encore pour l'imagination et le développement éventuel de clichés sur la Russie en révolution, du côté français.
La rupture de l'information, c'est vrai, a joué un rôle très important dans la constitution d'une première image d'octobre. Alors, elle n'est pas complète, puisqu'on envoie tout de suite, on essaye d'envoyer des journalistes, de recevoir des photos, des informations.
Il y a beaucoup de journalistes qui étaient en poste sont effrayés, dégoûtés, ils rentrent en apportant beaucoup des informations souvent controuvées qui reflètent leur indignation, leur inquiétude, leur réprobation.
Ils vont publier des récits souvent très négatifs, ces premiers récits, Serge de Chessin, Amélie de Néry, Marie Markovitch, Claude Anet, qui sont les premiers témoins journalistes de la Révolution qui sont de retour après des expériences parfois éprouvantes. Mais en même temps, il y a cette grande curiosité. Et on peut évoquer, par exemple, la création par les époux Leblanc de la Bibliothèque de la Guerre, qui deviendra aussi Bibliothèque Musée de la Guerre, puis Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine.
Ah, bah, je salue, puisque vous l'évoquez, la très belle exposition qui va s'ouvrir pour l'anniversaire de la Révolution de 17 à la BDIC, dont vous êtes une des quatre commissaires.
C'est tout à fait passionnant parce que la BDIC a été créée en 1917, l'année de la Révolution, et dès 1917, elle reçoit des photos, elle reçoit des affiches, elle reçoit des tracts par un réseau de correspondants, et notamment un personnage tout à fait étonnant qu'on découvre dans l'exposition, qui est le baron de Baille, qui vit à Moscou et qui arrache des murs les affiches pour les envoyer en France.
Excellent réflexe, comme beaucoup de gens l'ont fait en 1968, en mai 68, il y avait déjà des collectionneurs qui se sont précipités sur les murs.
Donc on voit que l'immédiateté de l'événement et la sensation de vivre un événement qui aura une importance mondiale, ça n'est pas seulement l'ère de Twitter ou de Facebook, mais c'est aussi 1917. Alors, ça prend du temps, mais finalement, ces témoignages et ces documents tout à fait exceptionnels arrivent à Paris et seront pour la plupart conservés jusqu'à donc l'exposition que nous présentons à partir du 18 octobre.
Pour revenir aux journalistes, on est frappé par les Holker qui sont les leurs devant cette Russie qui n'est plus celle qu'ils ont cru connaître. Par exemple, le journaliste Serge de Chessin, que vous évoquez il y a un instant, dénonce les illusions de février 1917 à partir d'octobre. Au lieu du doux Moujik, un cannibale déchaîné. Au lieu du peuple rédempteur, une plèbe délirante. Au lieu de l'Arcadie démocratique, une nuit de valpurgistes communistes. La Russie à la tête de l'apacherie mondiale, c'est la grande époque des Apaches à Paris, un recul vers la commune primitive. Voilà bien des fantasmes accumulés.
On voit bien, d'une part, effectivement, ces clichés, ces imaginaires, parce que la commune, c'est aussi le mir russe, donc ce sentiment que la communauté, que le russe, de toute façon, ne peut pas vivre précisément comme un individu libre et démocrate, donc tous ces préjugés. Et en même temps, on voit cette violence qui a été ressentie dans l'événement de 1917 et qui va être exportée dans des débats d'idées et puis ensuite dans des engagements affrontés entre communisme et anticommunisme pendant tout le XXe siècle.
Il y a évidemment le fait que la Russie se retire de la guerre et que l'idée naît d'un sorte de complot entre les bolcheviks qui prennent le pouvoir et les Allemands. Après tout, le Reich a laissé passer Lénine en wagon plombé. C'est un wagon qui est entré dans l'histoire avec une grande virulence, si vous me permettez cette image.
C'est le fameux wagon plombé qui d'ailleurs n'était pas plombé, mais c'est le fameux wagon dit plombé qui n'était en fait qu'un wagon avec un statut d'extraterritorialité, donc qui a pu du coup traverser l'Allemagne avec la bénédiction du Reich qui évidemment comptait sur la désorganisation de son front Est. Et c'est effectivement le début d'une image négative du régime soviétique que le régime soviétique aura du mal à rattraper en quelque sorte, même après le rétablissement des relations diplomatiques, puisque c'est le fameux lâchage de l'allié russe et la paix séparée de Brest-Litovsk qui abandonne les alliés d'hier, qui dégarnit leur front Est. Donc, déception pour les uns, mais espoir pour les autres dans ce pacifisme qui semble se développer.
D'où une substitution. Les correspondants traditionnels partant pour Paris, quittant cette Russie déchaînée, mais remplacés par un certain nombre de personnalités intéressantes, dont Pierre Pascal, dont vous avez publié le journal et où vous avez raconté la vie. Et cette substitution mérite attention parce que ce sont eux désormais qui vont contribuer à proposer à une partie de l'opinion en France une certaine idée de ce qu'est la Russie révolutionnaire.
On cherche à s'informer. Donc comment s'informer? Effectivement, par les journalistes dont certains repartent et dont certains ne sont pas forcément les plus critiques. Quelqu'un comme Albert Londres En 1920, le correspondant d'Excelsior va être critique, mais sans être complètement négatif. Donc il y a de grands reportages, et puis il y a aussi ces voix qui viennent de l'intérieur de la Russie bolchévique, et notamment ces voix françaises. C'est tout à fait étonnant et ça surprend l'opinion française. Ces Français qui étaient pour la plupart à Petrograd ou à Moscou, soldats ou journalistes, comme René Marchand, qui était quand même le correspondant du Figaro, qui se convertit au bolchévisme, ou officiers comme Pierre Pascal, qui choisissent le communisme, qui restent et qui se mettent au service de ce que Lénine appelle l'agitation et la propagande, et qui pour lui est extrêmement important, puisqu'il s'agit de diffuser la révolution mondiale, et puis aussi il s'agit de se défendre contre des alliés qui vont rapidement se retourner contre lui et l'attaquer par ce qu'on appelle l'intervention.
La plupart de ces personnages, tout à fait dignes d'intérêt, vont progressivement quitter ce qui leur apparaîtra après coup comme une illusion et quitter le Parti communiste, mais pas tout le monde. Il y a un personnage intéressant qui est Jacques Sadoul, que j'aimerais que vous nous présentiez, car je vais vous faire entendre son témoignage ultérieur, bien ultérieur, le 21 janvier 1949, dans le cadre de la fameuse émission Tribune de Paris, que nous aimons tant ici, les hommes, les idées, les événements à l'ordre du jour. Qui est Jacques Sadoul ?
Jacques Sadoul est un avocat socialiste qui arrive dans ses missions militaires destinées à réanimer l'énergie et aussi l'organisation de l'allié russe, et qui vont bien sûr échouer puisqu'il arrive très tard, hein, en septembre 1917, et qui se trouve donc entraîné lui aussi par l'événement vers le bolchevisme, qui jouera un rôle important puisque dans ses lettres vers la France, qui seront rapidement publiées, il sera justement l'un de ses premiers témoins à défendre le régime soviétique, et ce sera l'un des seuls membre de ce fameux groupe communiste français de Russie, a resté finalement fidèle à Lénine puis à Staline.
Eh bien, vous allez voir qu'il est effectivement fidèle à la mémoire de Lénine. Il suffit de l'entendre pour s'en persuader.
Dans les périodes de discussion, de tension, évidemment, ses yeux étincelaient, son grand front s'illuminait et il donnait une grande impression de puissance. Mais dans l'ordinaire, à l'état de repos, je dois dire que Lénine de l'impression que peut donner, je ne vais pas dire l'un d'entre nous, mais dans un tram quelconque, un bon fonctionnaire moyen, honnête et sage. C'était un homme d'ailleurs très grand. Je crois bien que les historiens reconnaîtront qu'il a ouvert une ère nouvelle à l'humanité. Et je me souviens qu'un jour, lors de notre dernier entretien, en décembre 1922, alors qu'il était tout de même déjà atteint dans une certaine mesure par la maladie qui devait l'emporter, Lénine m'a dit « Voyez-vous, Sadoul, votre pays est encore un grand pays, le premier, le monarchisme féodal. C'est lui qui a amené au pouvoir une nouvelle classe, alors révolutionnaire, la bourgeoisie, qui a fait de grandes choses, au moins jusqu'au milieu du 19e siècle. Et ce pays était si grand que les meilleurs citoyens du monde entier voulaient être les citoyens de ce pays. Et que déjà en 1789, nous pourrions citer beaucoup de noms, de politiques, de savants, d'écrivains, qui disaient « J'ai deux patries, mon pays et la France ». Eh bien, me disait Lénine, j'espère que nous aurons aussi cet honneur. J'espère qu'un jour, dans le monde, des millions et des dizaines de millions d'hommes diront « J'ai deux pays, mon pays d'origine et l'Union des Soviets, le pays qui a créé le socialisme, qui a supprimé les classes, qui a assuré à chacun le bien-être, la sécurité et la paix ».
Joséphine Baker, j'ai deux pays, mon pays et la France. Je ne suis pas sûr qu'en dépit de ce qu'escompte Jacques Sadoul, l'historien reconnaîtra que Lénine a ouvert une ère nouvelle pour le monde. Je ne suis pas sûr que cette prévision ait été, vous êtes historienne, Sophie Curé, ait été absolument vérifiée. La symétrie avec la France historiquement est digne d'intérêt. Il l'a cru.
Sadoul l'a cru et surtout...
On est en pleine guerre froide.
Il parle en 1949. Et il n'est pas innocent de dire que l'Union soviétique peut être éventuellement la patrie de tous les travailleurs, y compris les travailleurs français, puisqu'on est vraiment dans une période d'extrême tension mondiale.
Maurice Thorez, le chef du Parti communiste, d'ailleurs, chaque année prononce un discours pour célébrer à ce moment-là l'anniversaire de la Révolution d'octobre.
Et la position du Parti communiste, qui est là tout à fait reflétée de l'époque, est ambiguë, puisqu'en même temps, le Parti communiste se veut le grand parti des fusillés, le grand parti patriotique, et donc, bien sûr, insiste sur cette filiation de la Révolution française, puis ensuite on va retrouver la Commune de Paris, ce qui n'est pas du tout la ligne qui est portée par les soviétiques, qui eux se veulent le modèle universel, c'est la rupture de 1917. Donc on a une vision française de 1917, et aussi une vision qui est celle de Sadoul lui-même, qui évidemment prend bien soin de rappeler qu'il a fréquenté le grand leader, l'homme peut-être le plus connu du monde entier à l'époque, peut-être après Staline quand même, et Hitler, qui est Lénine, qu'en réalité il a très peu fréquenté, mais peu importe.
Le portrait de Lénine peut appeler certaines comparaisons avec certaines descriptions de Vladimir Poutine aujourd'hui. Est-ce que je vous entraîne trop loin dans la comparaison?
Ça serait plutôt à contrario, puisque l'image que veut donner de lui-même et que donne de facto Vladimir Poutine n'est pas du tout celle d'un petit fonctionnaire aux yeux pétillants, mais plutôt d'un grand sportif froid.
Pas très grand, je ne sais pas si Lénine était si grand. Il était très grand, Lénine?
Lénine n'était pas très grand, ça c'est un point commun entre les deux hommes.
En dépit de ce que dit Sadoul, il l'a vu grand, ce qui est déjà un signe d'une admiration spécifique.
Lénine ne faisait aucun sport, si ce n'est un peu de bicyclette dans Paris, et je crois qu'il aimait la chasse. Alors la différence peut-être, c'est que Lénine n'a jamais voulu construire sa propre image. Sa propre image, elle a été construite après sa mort. On était dans l'idée d'une révolution du peuple, du prolétariat, d'un parti, certes un parti mené par les élites, mais d'une révolution collective. Donc il ne s'agissait pas, à l'époque de 1917-18 et jusqu'en 24, du culte de la personnalité. Et donc là, je crois que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts en termes de construction publique et médiatique des dirigeants par eux-mêmes, avec évidemment aussi une puissance de diffusion dans les médias qui n'est pas la même. Mais ce qu'avait très bien compris Lénine, en revanche, c'est l'importance de ce qu'on appelait à l'époque, sans terme négatif, la propagande, c'est-à-dire toucher les masses, toucher les opinions de toutes les manières possibles.
Il y a aussi l'accueil des voyageurs. Pendant la guerre, la Grande Guerre, ce n'est pas possible, mais assez vite, les voyageurs commencent d'arriver. Il y a tout un système que vous avez étudié dans plusieurs de vos écrits, Sophie Queret, qu'on a étudié aussi pour la Chine, qui consiste à entourer les visiteurs de toutes sortes de soins, toujours accompagnés, pour qu'on puisse avoir l'espoir qu'au retour, ils publient des articles ou des livres favorables. C'est ce qu'a fait André Gide avec son retour du RSS, mais il l'a corrigé ensuite, comme on sait, en se disant qu'il avait peut-être été entouré d'un certain nombre de soins qui pouvaient lui cacher la réalité. Charles-André Julien, qui visite à ce moment-là, nous le verrons tout à l'heure, dit un peu la même chose. C'est important du point de vue de l'image que ces passeurs, que ces truchements peuvent contribuer à forger du côté de l'opinion publique française.
C'est très important parce qu'ils répondent, c'est vrai, à une grande curiosité, à une attente du côté français, mais ils veulent aussi construire un message, et ce, dès 1918, et ce sont précisément ces premiers bolcheviques français, Pierre Pascal, Jacques Sadoul, qui accueillent les premiers voyageurs, qui dès 1919, et surtout en 1920, pour le deuxième congrès de l'Internationale communiste, et puis ensuite, de façon beaucoup plus organisée dans l'entre-deux-guerres, vont affluer vers l'Union soviétique, vers ce que Jules Romain appellera plus tard, justement, cette grande lueur à l'Est qui rayonne. Une grande lueur à l'Est qui résonne à la fois comme un mythe et comme aussi une contre-utopie.
Vous l'avez, Sophie Queret, vous avez repris le titre pour dénommer votre livre, La Grande Lueur à l'Est. Jules Romain, posthume, vous a autorisé?
J'ai pas tout à fait repris, puisque c'est cette Grande Lueur à l'Est chez Jules Romain, et moi, oui, c'est la Grande Lueur à l'Est. Mais c'est vrai que c'est la métaphore la plus frappante, parce que c'est aussi une métaphore qu'on retrouve justement sur ces affiches de propagande. C'est la métaphore de la lumière, du soleil, et de l'avenir, du soleil qui se lève. Et donc, il s'agit d'aller voir et de témoigner. Pourquoi? Parce que précisément dans ces premiers temps où on ne savait pas ce qui se passait en Russie, se sont développés toutes sortes de discours contradictoires. Donc le témoin va être un personnage tout à fait important et un personnage choyé par le système d'influence soviétique qui va inventer véritablement ce tourisme politique qui ensuite sera repris par la Chine, notamment, et aussi par Cuba, par exemple.
Beaucoup de réflexions, d'observations tournent autour, évidemment, de la grande question de la liberté par rapport au pouvoir, de l'éventuelle parenthèse à accepter pendant un temps provisoire. C'est ce qui se reflète dans cette lettre de Romain Rolland sur la Révolution russe, qui a été écrite au courant de 1918, je n'ai pas la date exacte, qui a été diffusée sur France Culture le 19 janvier 1966. Vous vous rappelez que Romain Rolland était l'homme qui, depuis la Suisse, s'était posé au-dessus de la mêlée, qui du coup avait une autorité compliquée, mais forte, parmi divers secteurs de l'opinion publique.
Mon cher ami, vous savez, vous qui me connaissez, que je ne puis être bolchevique. Primo, parce que je ne suis pas un homme politique et encore moins un homme de parti. Deuxièmement, parce que la violence me fait horreur d'où qu'elle vienne et que je ne saurais me plier à aucun despotisme, rouge ou blanc, ou quelle qu'en soit la couleur. Mais je suis un homme qui aime à voir, à comprendre, à juger et à comparer. Et les hommes qui dirigent le mouvement bolchevique me semblent de grands jacobins marxistes qui tentent héroïquement une expérience grandiose. Je comprends qu'on les combatte, je ne comprends pas qu'on les méconnaisse aussi aveuglément. Une bonne partie de leurs pires erreurs vient de ce qu'au lieu de les modérer et de les encadrer, les alliés les ont rejetés, outragés, acculés à des situations et à des partis désespérés. Pour en revenir à l'Allemagne, qui ne voit que si nous avions voulu, ils, les bolcheviques, auraient pu être contre elle nos meilleurs alliés par leur propagande révolutionnaire. Mais la bourgeoisie française, américaine, anglaise, mondiale, a peur de jouer avec le feu.
A peur de jouer avec le feu, Sophie Curé.
C'est assez étonnant d'entendre cette voix posthume de Romain Rolland dans ses lettres, parce que l'image peut-être qu'on en garde, c'est plutôt celle de celui qui finalement a défendu l'Union soviétique.
Ultérieurement.
Qui s'est rallié, puis qui ensuite très tardivement l'a critiqué. Donc il a eu une relation ambiguë avec l'Union soviétique, du fait aussi de son couple, du couple étonnant qu'il formait avec Maria Koudacheva, qui avait été envoyée d'Union soviétique et qui l'a finalement épousé. Mais si on se replace en 1917-1918, c'est l'autorité morale, intellectuelle, littéraire de Romain Rolland qui est énorme, et sa voix va beaucoup porter dans un premier temps pour défendre cette révolution qui est un espoir pour la paix. Donc les pacifistes se rallient avec beaucoup d'espoir à cette voix de Romain Rolland, et ensuite très rapidement une première voix critique qui va par exemple être, on le sait peu, hein, celle de son correspondant, Maxime Gorki, qui écrit des pages tout à fait critiques de la violence bolchevique.
Mais qui en gros est resté tout de même, avec ses nuances, fidèle à la ligne bolchevique.
Gorki va finalement adhérer au bolchevisme, qu'il n'était pas du tout. Et la question philosophique et politique que pose Romain Rolland, c'est celle qui va aussi beaucoup déchirer les communistes, les compagnons de route. C'est que doit-on accepter de ce régime révolutionnaire pour le défendre, et dans l'espoir d'un avenir justement qui est cette grande utopie, cette grande lueur à l'Est, et notamment que doit-on accepter en termes de répression politique avec toutes les informations qui filtrent dès 1917, puisque la Tcheka, la police politique, c'est dès décembre 1917, et qui ensuite vont être diffusées petit à petit, combattues par le régime d'influence soviétique sur le goulag. Donc quel degré de violence doit accepter une révolution, doit accepter un régime qui se construit? C'est une question évidemment qui va beaucoup troubler le XXe siècle.
Et qui travaille dès les années 20 une bonne partie de l'opinion française, notamment de gauche. On voit certains penser que c'est un moment qu'il va falloir traverser, et puis qu'au-delà, doucement, la Russie viendra vers la social-démocratie. C'est par exemple la conviction clairement exprimée par Édouard Herriot, président radical du Conseil en 1924.
Oui, c'est ce qui explique ce qu'on peut appeler le philo-soviétisme de certains hommes politiques français qui ne sont absolument pas communistes. Et c'est là où l'on retrouve ces permanences, cette longue durée des imaginaires et des représentations. Hein, puisque c'est l'idée que finalement le peuple russe ne serait pas, par, en quelque sorte par sa culture, par sa civilisation, ne serait pas prêt ou ne serait même pas destiné à la démocratie libérale et au régime des libertés individuelles. Et je crois qu'on peut aussi s'interroger sur certains de ces clichés qu'on retrouve aujourd'hui dans l'analyse du régime russe et de la férule de Poutine par rapport notamment à son opposition qui reste une opposition faible, une opposition dispersée. Et ce sont des principes d'explication peut-être un peu rapides qu'on retrouve.
Vous ne les rejoignez pas, ces principes, ou vous pensez qu'il y a une part de vérité dans l'analyse de ce rebond, dans l'affirmation de cette ressemblance ?
Moi, il me semble que les explications, je dirais, civilisationnelles et culturalistes sont toujours un peu inquiétantes et que certes, il peut y avoir des échos et des permanences, mais que très concrètement, on est maintenant plus du tout, justement, dans ces années 1917, ni au moment de Custine, où on pouvait croire que le peuple russe, d'un bloc, pouvait se soumettre à la férule d'un tsar ou plus tard d'un Staline.
À vous écouter, je me réjouis que dans cette émission, on ne soit pas obsédé par les ressemblances, mais toujours soucieux de considérer que les reflets ou les échos informent aussi sur les différences. Vous êtes plus sensible aux différences. En somme, même si je vous ramenais en 1905 ou 1906, ou même en février 1917, vous êtes plus sensible, Sophie Queuré, à la différence.
Alors, je crois que l'analogie qui peut nous frapper et qui peut aussi peut-être nous donner espoir pour la Russie, c'est plutôt février 1917 et non pas octobre. Hein, c'est-à-dire cette ébullition démocratique, cette fois dans les élections, puisqu'il y aura les élections à la Constituante qui vont mobiliser plus de 40 millions d'électeurs, hommes et femmes, de toutes les nationalités de la Russie. Et ce désir de débattre, ce désir de discuter qui va agiter la Russie, ce sens aussi de la critique avec ces revues satiriques, ces revues humoristiques qui se déploient pendant quelques mois et puis qui ensuite seront interdites par les bolcheviks.
En somme, nous allons travailler à redonner à la figure de Kerensky, même s'il n'a pas toujours été à la mesure du grand défi qu'il a dû affronter, une couleur nouvelle. Vous rapprocheriez Kerensky de Poutine ?
En termes de mythologie et de représentation, oui, sans doute davantage Kerensky se rapproche de Poutine que Lénine ne se rapproche de Poutine, puisque l'image de Kerensky, c'était précisément celle d'un homme fort, celle d'un nouveau Bonaparte, celle d'un homme fort qui, en même temps, apportait un renouveau politique à la Russie.
Donc, et qui, après coup, a été vu comme le symbole de celui qui, trop faible, permet à l'extrémisme révolutionnaire de triompher.
Alors, nous ne nous ferons pas les prophètes de ce qui peut arriver à Vladimir Poutine, mais c'est vrai que la chute a été rude en termes d'image pour Kerensky.
Je voudrais terminer cette conversation en vous proposant, Sophie Queuré, une archive qui est le témoignage de Charles-André Julien. Il m'intéresse à cause de la personnalité de cet homme qui a été un grand historien de l'Afrique du Nord, un grand historien tout court et un acteur. En même temps, il était au congrès de Tours de 1920. Il n'a pas suivi à l'époque Léon Blum, qu'il a rejoint plus tard. Il a quitté la vieille maison, il a été communiste, et ce qui explique qu'il ait fait un voyage à Moscou et à Léningrad. J'ai tort de dire Léningrad, c'était encore Saint-Pétersbourg. En 1921, vous allez voir les nuances que rétrospectivement il apporte dans son témoignage. Il est interviewé par Jean Rabaud. Jean Rabaud qui était un journaliste très engagé à gauche, mais du côté plutôt de la SFIO, du Parti Socialiste. Il est interviewé le 1er janvier 1967.
Je suis arrivé, comme tous mes camarades, avec une sorte de paradis trouvé, persuadé que j'allais trouver un contentement général, tandis que j'ai trouvé un mécontentement général.
Alors comment est-ce que ça tenait ?
Ça tenait par l'autorité. Et on s'en plaignait, mais on en parlait peu.
Avez-vous senti une influence policière en vous promenant à travers la ville, en causant
non.
avec les camarades russes ?
Non. Non. Et pourtant, il parlait de tout avec une franchise, et ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce bonheur de rencontrer des Occidentaux. Et quand nous sommes arrivés, surtout Vaillant Couturier et moi, ils ont été d'une joie de converser, qui était presque gênante pour nous, parce que ils nous disaient « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et un jour, je disais ma honte, littéralement, à mes amis français qui étaient là, de s'entendre questionner et demander des conseils, alors que nous venions, nous, comme une sorte de mec, pour en recevoir.
Et quand vous en êtes parti, est-ce que vous aviez l'impression de revenir de la Mecque ?
Je suis parti dans un sentiment mixte, une immense admiration pour les efforts qui étaient faits, une grande crainte pour ce que deviendrait le pays à cause de sa bureaucratie déjà implantée et inexpugnable. Et enfin, s'il n'allait pas été ruiné, car au dernier moment, la question dominante a été la famine. Et alors, cela a effacé tout. Les vaillants couturiers et moi, surtout, nous avons eu toutes les entrevues avec Tchétchérine, avec Gorky, avec tous les responsables, avec Kalinine, pour organiser une propagande en Occident. Et c'est là que s'est passé pour moi un des phénomènes les plus marquants. C'est que notre propagande sur la misère russe n'a pas mordu sur le prolétariat français.
Voilà un propos qui est digne d'intérêt pour finir ce Ficuré. Cette sorte de censure, ou plutôt de refus spontané du côté du mouvement ouvrier français en face d'un certain nombre d'informations venues de Russie. Est-ce que ce propos de Charles-André Julien vous paraît pertinent ?
Je crois qu'on retrouve dans l'itinéraire et dans le témoignage de Charles-André Julien peut-être tout ce qui va effectivement porter à la fois les espoirs et les malentendus dans le modèle soviétique, c'est-à-dire à la fois cette grande utopie, cette mecque du communisme, cette première déception, et le fait que finalement ce modèle soviétique a été bien sûr beaucoup reçu à l'aune des intérêts de ce qu'on appelait le prolétariat français, et donc cette déception finalement aussi de ces internationalistes. Je voudrais insister là-dessus, c'est vrai que c'est de la part des Russes comme de la part des Français et des Européens, cette utopie de l'internationalisme, de ne plus isoler la Russie face à l'Europe ou même face à l'Asie. Et donc, c'est aussi, je pense, un sujet de méditation pour aujourd'hui.
D'autant plus qu'on a l'impression que Poutine appuie son pouvoir et dans une certaine mesure sa popularité sur un patriotisme qui peut parfois se dégrader en nationalisme du côté de la Russie, non ?
C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide ont changé beaucoup les choses, mais cette idée que la Russie est finalement un isolat, avec sa culture propre et finalement son régime politique propre, est aussi à repenser dans la longue durée.
Eh bien, on le repensera. Merci beaucoup, Sophie Curé. J'ai évoqué déjà l'exposition dont vous avez été, dont vous êtes, Sophie Curé, avec Carole Ajam, Alain Blum et Sabine Dulin, la commissaire, une émission de la BDIC, qui va être ouverte du 18 octobre 2017 au 18 février 2018 aux Invalides, et 1917 devient Révolution. Hommage aussi au film que je vous recommande de voir, qui va passer mercredi 18 octobre à 20h55 sur France 3, un film de Bernard Georges, 1917, il était une fois la Révolution, avec un grand nombre d'archives inédites tout à fait intéressante à visionner. Vous avez publié La Grande Lueur à l'Est, je l'ai dit, La Grande Lueur à l'Est, Les Français et l'Union soviétique 1917-1939, paru au Seuil en 1999 et récemment réédité. J'ai évoqué aussi la biographie que vous avez donnée de Pierre Pascal, catholique devenu communiste, La Russie entre christianisme et communisme, les éditions Noir sur Blanc 2014. Vous avez également publié son journal. Et puis, j'évoquerai le hors-série du Monde, 1917, la Révolution russe, le récit de l'historien Marc Ferraud, grand spécialiste de ces choses et de ce pays, de la Russie et du monde bolchevique, septembre-novembre 2017. Et enfin, le numéro spécial de l'histoire, les Révolutions russes, publié en février 2017. La bibliographie est abondante, je n'ai pas pu tout dire à ce micro, et vous en retrouverez d'autres éléments sur notre site, vous le savez, avec la référence des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et télécharger cette émission afin de la conserver pour l'éternité. Samedi prochain, nous parlerons de Ferdinand Buisson, pédagogue, à l'occasion de la réédition de son dictionnaire pédagogique. Ferdinand Buisson, toujours fécond, point d'interrogation ? Je pense que nous dirons oui. Mon invité sera Pierre Nora. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, réalisée par Anne Kobilac, avec Jean Frédérics à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.